Bienvenue, le journal Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour. La colère des pêcheurs français, la France serait-elle en train de reculer sur le dossier des licences de pêche vis-à-vis du Royaume-Uni? La ministre de la Mer prépare les esprits, tous les pêcheurs n'auront pas le précieux sésame pour travailler dans les eaux britanniques. Quatrième jour de mobilisation en Guadeloupe contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Routes barrées, voitures incendiées, à quelques semaines de la haute saison touristique, la vie économique commence à pâtir de la situation. Réparer l'irréparable, les religieux, les religieuses, les moines, les sœurs qui achèvent aujourd'hui à Lourdes leur assemblée plénière. La présidente de la COREF dévoile en avant-première pour France Inter la principale mesure adoptée contre les abus sexuels dans l'église. L'absence crée le désir d'Aurel San, 4 ans sans album, succès fulgurant des précommandes, Civilisation, c'est le nom, un disque d'or avant même sa sortie aujourd'hui.
Et je vous rappelle qu'à 7h45, le débat Écho avec Thomas Piketty et Dominique Seux portera sur la dimension économique de la question de l'immigration.
France Inter. L'annonce a fait l'effet d'une bombe aux Assises de la Mer organisée dans le Finistère. La France se prépare à indemniser les navires qui ne pourront plus pêcher dans les eaux britanniques. Une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros est déjà prévue par la France pour aider ces pêcheurs qui ne pourront plus travailler, qui décideront de détruire leurs bateaux. Dans ce bras de fer post-Brexit, le gouvernement semble prêt à reculer face au Royaume-Uni. Annick Girardin, la ministre qui était l'invitée ce matin de France Inter, espère arracher encore quelques licences. Mais on sent bien que la messe est dite. D'où la colère de la plupart des pêcheurs français, Rémi Brancato.
Pour Olivier Le Nézet, président du comité régional des pêches de Bretagne, prévoir une sortie de flotte de certains bateaux est un aveu de faiblesse face aux Britanniques.
C'est un abandon total de la pêche française, du gouvernement. C'est une faillite politique. Nous sommes dans un rapport de force avec le Royaume-Uni aujourd'hui et avec Jersey. Dans ce rapport de force, la France est à faune.
Il l'a dit à Annick Girardin qui a pris une heure hier après-midi pour détailler sa position aux professionnels. Obtenir les licence reste la priorité, dit-elle. Olivier Leprêtre, président du comité des pêches des Hauts-de-France, est plutôt convaincu.
On ne peut pas dire que le gouvernement baisse les armes. C'est une préparation au cas où. On ne peut que se glorifier d'avoir quand même des aides pour celui qui veut cesser son activité. Les négociations continuent, elles continuent de se battre et c'est tout ce qu'on veut.
Mais dans sa région à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, le maire Frédéric Cuvillier, lui, s'inquiète pour l'avenir de la filière. Toute une économie en danger selon lui.
Résigne à perdre la capacité de travail. Ce n'est pas en cassant nos bateaux que nous donnons des perspectives d'avenir.
Annick Girardin promet de son côté d'accompagner des reconversions de pêcheurs car il faut anticiper, dit-elle. En 2026, les Français devront pêcher 25% de poissons en moins dans les eaux britanniques.
Rémi Brancato, les 300 salariés d'Ascoval peuvent respirer, Emmanuel Macron aussi. Le propriétaire allemand de l'emblématique aciérie décarbonée de Sainte-Solve dans le Nord renonce à transférer temporairement une partie de son activité en Allemagne à cause du prix de l'énergie. Le ministère de l'économie a tout fait pour éviter un revers industriel et écologique à 5 mois de la présidentielle. On ne connaît pas encore les dessous de ce renoncement, mais l'acierie électrique Ascoval a vu sa tonne d'acier vert passer de 200 à 300 euros. Ascoval produit à perte depuis septembre. Comment rendre le secteur de l'hôtellerie-restauration plus attractif en améliorant les salaires? Seulement la première séance de négociation a tourné court hier. La grille de salaire est inchangée depuis 2018 et donc obsolète par rapport au SMIC. Les organisations patronales demandent une augmentation de 10,5%. Insuffisant, disent les syndicats, notamment la CGT qui réclame une hausse de 25%. Une autre réunion déjà programmée pour le 16 décembre. Ils ne veulent pas de l'obligation vaccinale pour les soignants ni du pass sanitaire. Les manifestants ne désarment pas en Guadeloupe depuis 4 jours maintenant. Ils bloquent les routes, les forces de l'ordre lèvent les barrages et ça recommence, routes barrées, barrières levées, etc. Des manifestations émaillées d'incidents, comme des véhicules incendiés et une situation qui commence à fragiliser la vie économique de l'île. Reportage en Guadeloupe de Farida Noir.
Des piles de paréos colorés, des pyramides d'épices intactes. Pas de clients au marché et la rue commerçante de Saint-François est bien vide. Dans son magasin de chaussures, Georges est désespéré.
On rentre en pleine saison touristique. Il y a beaucoup de personnes normalement à cette période. Depuis lundi, le chiffre d'affaires, ça diminue par deux. Les barrages, ça nous affecte beaucoup.
Jean-Michel Michel lui a pris les devants pour ne pas être pris au piège.
Je me suis organisé pour être dans le secteur pour ne pas avoir les blocages. Je dors chez une amie.
Mais sur son chantier, ce paysagiste se retrouve seul.
Il y a beaucoup d'artisans ici qui travaillent sur le site où je suis, qui sont coincés, qui ne peuvent pas se rendre sur le chantier. On court à la catastrophe.
Mais si l'impact des blocages se fait ressentir, l'île est loin d'être paralysée économiquement. Mais avec des entreprises déjà fragilisées par la crise sanitaire, Tony Morvan, le vice-président de l'UDE MEDEF Guadeloupe, n'est pas serein si le conflit s'éternise.
Nous approchons les fêtes de fin d'année. Les chefs d'entreprise ont espoir que ces fêtes de fin d'année vont apporter un bol d'oxygène en termes de chiffre d'affaires pour essayer de combler un tant soit peu les pertes considérables que nous avons connues. Et il est clair que ce qui se passe aujourd'hui nous inquiète énormément.
Mais la grève se poursuit avec de nouveaux barrages érigés pendant la nuit.
Farid Noir avec Laurent Maquetti pour les moyens techniques. À Lourdes, les religieux face à la réalité des abus sexuels dans l'église catholique. Près de deux semaines après les évêques, cette fois, ce sont les moines, les sœurs qui achèvent aujourd'hui à Lourdes leur assemblée plénière. Et leur conférence a voté hier une série de mesures qui seront dévoilées pour lutter contre ces abus sexuels au sein cette fois des instituts et des congrégations comme dans les églises. Véronique Margron, sœur dominicaine réélue cette semaine présidente de la COREF, dévoile en avant-première pour France Inter la principale mesure adoptée.
Ce qui a été acté, c'est une commission indépendante qui recevra les personnes victimes, qui pourra effectuer des médiations avec l'institut religieux dont est membre ou dont était membre l'agresseur, afin qu'une réparation de l'irréparable puisse être effectuée. En beaucoup de cas, les victimes ont ce sentiment qu'en fin de compte, nous allons chercher ou à nous défiler ou en tout cas à minimiser les choses. Donc il est fondamental pour les personnes victimes qu'elles aient confiance dans cette commission. Ce qu'on sait statistiquement, c'est que en France, il y a 2/3 de prêtres diocésains pour 1/3 de religieux hommes. On peut supposer qu'il y a donc 1/3 de victimes de membres d'instituts religieux. On peut aussi penser que sur la première période des années 50-70, il y en a sans doute un nombre important. C'est ce que le rapport Sauvé nomme entre autres les abus scolaires. Dans ces décennies, les congrégations religieuses avaient beaucoup de leurs membres à l'intérieur des établissements scolaires.
Véronique Margron avec Rémi Brancato.
Il est 7h36 au procès des attentats du 13 novembre 2015. Laurence, on est entré dans l'examen des faits.
Avec les auditions de plusieurs enquêteurs de la DGSI notamment. Ils sont venus expliquer le fonctionnement de l'État islamique, de la cellule des opérations extérieures chargée de planifier les attentats ou encore retracer le parcours des différents accusés en Syrie. Des enquêteurs qui, pour illustrer leurs propos, ont fait projeter des images particulièrement violentes des exactions commises par les djihadistes en zone irako-syrienne. Et la diffusion de ces images pose question, relance le débat sur la diffusion pendant le procès des images du Bataclan après l'attentat. Charlotte Piret.
À l'audience, le président prend le temps de prévenir. Pour ceux qui préféreraient quitter la salle, ce sont des images un peu difficiles. Il ajoute même, on ne les verra pas en entier car c'est assez insoutenable. S'ensuit la diffusion d'une vidéo de l'assassinat d'un pilote jordanien, otage de Daesh, brûlé vif dans une cage. Un peu plus tard, au cours de l'audience, c'est le coordinateur des attentats du 13 novembre que l'on voit au volant d'un pick-up, tractant les cadavres de Syriens assassinés.
On constate avec un peu d'étonnement que ça fait plusieurs fois que des enquêteurs de différents services viennent à la barre avec un PowerPoint ou des vidéos très très dures de la propagande de l'État islamique.
Arthur Desnouveaux, président de l'association de victimes Life for Paris.
On comprend pourquoi montrer ces vidéos peut être utile au dossier, mais en revanche c'est quasiment impossible pour nous de comprendre pourquoi les éléments qui sont à disposition pour le soir du 13 novembre ne sont eux pas diffusés dans la même logique. On juge des faits sur lesquels on a des éléments photographiques et qu'on ne les montre pas. C'est vraiment incompréhensible.
Lors de son témoignage à la barre, ce survivant du Bataclan avait déjà soulevé cette question de la diffusion des images à l'audience. Dans un monde, a-t-il rappelé, où il suffit de taper « fosse Bataclan » sur Google pour les retrouver. Le président, jusqu'alors hostile à cette idée, avait promis d'y réfléchir.
Charlotte Piri. Au Soudan, le nouveau pouvoir militaire rétablit les connexions Internet. Elles étaient coupées depuis le putsch du 25 octobre. Un premier pas vers la réouverture après une répression sanglante et particulièrement avant-hier, manifestation matée dans le sang. Au moins 15 morts et plus d'une centaine de blessés, rien que dans la capitale Khartoum. Mais c'est surtout la ville de Bari, jumelle de Khartoum, au nord du Nil Bleu, qui a été la plus touchée par la violence des forces de l'ordre. Selon les médecins, les militaires visaient le haut du corps, la poitrine et la tête. Reportage de notre correspondant sur place, Elliot Braché.
Dans le cimetière qui fait face à la mosquée Al-Tagwa, Ismaël Tajelsir se recueille sur la tombe de son frère, Louaï. Ce professeur a reçu une balle fatale dans la poitrine alors qu'il manifestait pacifiquement.
Les responsables sont clairement identifiés. J'accuse la junte militaire et le Conseil souverain. Ils sont à l'origine de tous ces morts depuis le 25 octobre dernier. Celui qui dit le contraire n'a pas vu ce qui se passe dans la rue. Il y aura une justice, cela prendra du temps, mais justice sera faite.
À quelques rues de là, des affrontements se poursuivent entre manifestants du quartier qui ont dressé des barricades et les forces de police qui tentent de les dégager. Un docteur sort de chez lui, furieux, il lève les bras en l'air.
Là, ils sont en train de nous encercler à balles réelles et à coups de gaz lacrymogène lancés au hasard jusque dans nos maisons. Ce sont les mêmes pratiques que sous le régime d'Omar al-Bashir. Le rôle de l'armée est de protéger nos frontières. Le gouvernement doit être civil.
À la nuit tombée, certains vont présenter leurs condoléances aux familles endeuillées du quartier. D'autres reconstruisent les barricades. Pour beaucoup, la tristesse a déjà laissé place à la colère. Eliott Brachet, Khartoum, France Inter.
Un triste record, la déforestation en Amazonie, elle a augmenté de 22% en un an. 13 000 km² déboisés au Brésil, dans la plus grande forêt tropicale du monde. Jamais autant. En une année, sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, la déforestation s'est amplifiée dans le pays. Ces trois dernières années, le président brésilien défend l'exploitation minière et la filière agricole. Oui aux éoliennes, mais pas à n'importe quel prix pour la biodiversité. C'est le message des défenseurs de la nature. Ils sont réunis au Muséum National d'Histoire Naturelle. Leur colloque a duré 2 jours à Paris. Colloque organisé par la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. Car si les éoliennes sont nécessaires pour limiter le réchauffement climatique, elles ne doivent pas être posées n'importe où. Célia Kiré.
C'est un message d'alerte alors que le sujet devient sensible à l'approche de la présidentielle. Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de Protection des Oiseaux, se montre très favorable aux énergies renouvelables, mais pas sans conditions et pas dans des zones Natura 2000. Il s'oppose à certains projets en cours.
Une éolienne plantée sur l'île d'Ouessant, c'est le haut lieu de la migration des oiseaux. Et c'est là qu'on va mettre un hachoir à piaf. Oléron, c'est quand même assez surréaliste parce que c'est une aire marine protégée qui a été établie par l'État et l'État voudrait mettre dans ce lieu des éoliennes. Ce n'est pas acceptable.
Alors que l'impact serait moindre dans la Beauce, par exemple, pour la LPO, le gouvernement est prévenu. De leur côté, les industriels promettent de tenir compte à l'avenir de ces critères de biodiversité. Nicolas Wolff, le président de la Fédération France Énergie Éolienne, travaille sur des innovations techniques.
Les opérateurs industriels testent en ce moment même des solutions technologiques, par exemple des caméras stéréoscopiques qui permettent de détecter les espèces à protéger, également des radars qui permettent en fait, en détectant ces oiseaux qu'on doit protéger, d'arrêter le fonctionnement des parcs.
Enfin, la LPO alerte plus largement le gouvernement. L'étalement des panneaux solaires dans les champs présente également un grand danger pour la biodiversité.
Célia Kiré. Rimes fracassantes, rythmes hypnotiques. Après 4 ans d'absence, Aurel San sort son nouvel album Civilisation ce matin. Déjà un énorme succès pour cet album engagé. Disque d'or grâce aux précommandes. Le rappeur français qui maîtrise aussi parfaitement l'art de la communication n'avait jusqu'à mercredi absolument rien dévoilé de cet album, sauf un clip, L'odeur de l'essence. Un clip et un documentaire qui a servi également de rampe de lancement à cet album. Mathieu Curon.
Je chante faux et je sais pas faire de musique.
Bah je déprime, comme prévu.
Et moi franchement, je pense que j'avance bien.
J'ai retrouvé la pêche.
Ce sont les derniers mots prononcés par Aurel San dans l'excellente série documentaire réalisée par son frère pour Amazon Prime. Il faut attendre le 11e titre du disque, partagé avec son ami de toujours Gringe, pour que le rappeur de Caen nous donne le menu de ce 4e album.
J'ai fait un album qui parle que de ma meuf et de la société, ça te dit qu'on fasse un morceau.
Parler de son époque, Aurel San l'a toujours fait, mais les textes sont ici plus noirs, un peu débarrassés de l'humour autrefois omniprésent qui faisait sa marque de fabrique.
J'entends un coup de feu qui part. Mickey dit tube au bon moment, le tir passe à 1 mètre. Son fumigène de merde s'éteint avant même qu'il jette. Un corps percute le sol près de moi, du sang sort de la tête. Je reconnais Franck, je me dis qu'elle aura pas sa retraite.
Aurel San se fait plus nostalgique et parle de son enfance dans La Quête, mais aussi de son adolescence dans Shonen.
Je veux dire vraiment, je veux dire j'aurais pas changé si vous m'aviez pas dit de le faire.
Amour moderne, tonnerre sublime, grotesque, honnête dans mes poèmes. Tout chien, je voulais qu'un peu de soleil, être le héros de mon propre sonnet.
Le dernier disque d'Orelsan est un album qui nous parle de la montée des extrêmes, de la dictature des réseaux sociaux, de la faillite de l'État, du pays déboussolé et d'une probable apocalypse écologique. Magie des précommandes, Civilisation était déjà disque d'or avant même sa sortie.
Mathieu Culeron, merci.
Et à 9h10, Orelsan est l'invité de Boomerang, évidemment, au micro d'Augustin Trapenard. Laurence Thomas, merci. L'édito politique à suivre.